Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la géhenne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce vendredi soir 27 novembre 2020. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. L'économie iranienne est une économie grande et résiliente, a souligné le président iranien Hassan Rouhani. Les détenus palestiniens Maher al-Akhras, qui avaient entamé une grève de la faim durant 103 jours, a été libéré. La Syrie et le sultanat de Mans se prononcent en faveur du développement de leur coopération bilatérale. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. L'économie iranienne est une économie grande et résiliente et l'Iran peut répondre aux besoins de la région, voire le monde, moins cher et plus facilement, a déclaré le président iranien Hassan Rouhani. Alors que nos ennemis cherchés n'ont boycotté et isolé l'Iran et en dépit de leurs tentatives de nous décevoir, pense-t-il, nous assistons en une semaine à l'inauguration de 3 projets dont la valeur a été estimée à plus d'un millier de dollars. S'est félicité Hassan Rouhani. Il a poursuivi pour ceux qui s'occupaient de tramer des plans des sinistres contre la nation iranienne pendant cette période. Il est incroyable que nous inaugurions un plan et un projet important ayant une valeur de plus d'un milliard de dollars en Iran. Cela en un jour, a-t-il souligné. Hassan Rouhani a déclaré que les États-Unis n'ont jamais pu empêcher la République islamique d'Iran d'importer de la technologie, bien que les sanctions aient provoqué des problèmes, mais elles n'ont jamais pu entraver le développement et le progrès de l'Iran, a souligné le président Rouhani. Il a également plaidé pour l'interaction constructive d'un Iran puissant dans les domaines économiques et commerciaux avec le monde. L'industrie pétrochimique d'Iran cible une croissance de 25 milliards de dollars avec l'achèvement des derniers plans de bons de production prévus pour l'année prochaine, l'année civile iranienne de 1400 entre mars 2021 et mars 2022 par l'industrie pétrochimique nationale. La capacité totale de ce secteur avec une croissance de 80% par rapport à 2013 atteindra 100 millions de tonnes par an pour une valeur de 25 milliards de dollars, a déclaré le ministre iranien du pétrole Bijan Namdar Zangani. Il s'est exprimé ce jeudi 26 novembre lors de la cérémonie de la mise en exploitation auprès des projets nationaux du ministère du pétrole tenus en visioconférence en présence du président de la République islamique Hassan Rouhani. Il a ajouté au cours de cette dernière année, la production de l'industrie pétrochimique a considérablement augmenté. Aujourd'hui, l'objectif principal du ministère du pétrole dans le secteur pétrochimique est de mettre fin au commerce des matières premières brutes et de développer la chaîne de valeur et de répondre aux besoins nationaux. un défilé populaire des forces de la mobilisation navale de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique CGRI a eu lieu de jeudi en présence de plus de 1000 embarcations légères et semi-lourdes sur les rives du golfe Persique et du détroit d'Ormuz. Le défilé populaire des forces navales du CGRI a eu lieu ce jeudi 26 de novembre à l'occasion de la semaine de Bassige dans les eaux du golfe Persique et du détroit stratégique d'Ormuz avec la participation de 1000 embarcations légères et semi-lourdes. Et le mercredi 25 novembre, la première image de Dena, le plus récent destroyer entièrement iranien de l'armée de la République islamique d'Iran, a été publiée. Le destroyer Dena devrait être dévoilé prochainement au cours de la semaine de la marine. À l'approche de la journée nationale de la marine, le commandant en chef de l'armée iranienne, le général de division Abdelrahim Moussavi, a souligné dans un message que les missiles à longue portée de haute précision de la marine étaient capables de détruire des cibles situées à des centaines de kilomètres. Le détenu palestinien Maher al-Akhras, qui avait entamé une grève de la faim durant 130 jours, a été libéré par les autorités de l'occupation israélienne après 4 mois de détention administrative. Ma liberté est la liberté de mon peuple et nous avons triomphé de cette occupation avec notre détermination et notre volonté, a-t-il déclaré aux journalistes à son arrivée à l'hôpital national Al-Najjar de Nablus dans le nord de la Cisjordanie. L'occupation israélienne a essayé de tuer notre volonté, mais elle a échoué et nous avons vaincu. Aujourd'hui, je dédie cette victoire au peuple palestinien, a-t-il ajouté. Interrogé sur son état de santé, il a assuré qu'il se porte bien, indiquant qu'il effectuera des examens médicaux à l'hôpital Al-Najjar de Nablus. Le président du Parlement syrien, Hamouda Sabah, a affirmé lors de sa rencontre à Damas avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du sultanat d'Oman en Syrie, de Turquie bin Mahmoud al-Boussaïdi, la profondeur des relations fraternelles basées sur le respect mutuel entre la Syrie et l'Oman et la nécessité de développer ces relations bilatérales. Lors de cette rencontre, Sabah a émis son espoir de la poursuite des relations de la coopération entre les deux pays frères, notamment au niveau parlementaire entre l'Assemblée du peuple syrien et le Conseil de la Choura. On menait insistant sur l'importance d'échanger des délégations et les expertises parlementaires dans différents domaines. De son côté, l'ambassadeur Omané a souligné la nécessité de renforcer et de développer divers aspects des relations omano-syriennes et d'intensifier les visites mutuelles afin de profiter des expertises syriennes. Donald Trump, président américain, a dit qu'il quitterait bien sûr la Maison-Blanche si la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle était officiellement confirmée, tout en répétant qu'il pourrait ne pas reconnaître sa propre défaite. Et un agent de la CIA a été tué récemment au cours d'une opération en Somalie, un incident qui devrait relancer le débat aux États-Unis sur la présence d'Américains dans ce pays. Et selon le New York Times, qui a révélé l'incident, l'agent de la CIA, qui n'a pas été identifié, appartenait à la branche paramilitaire de l'agence de renseignement américaine dite Centre des activités spéciales. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, notre journal d'information s'achève. Restez avec nous, nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique, notre commentaire politique qui porte en fait sur les déclarations de l'ambassadeur permanent de l'Iran auprès des Nations Unies. L'Iran qualifie de crimes contre l'humanité des sanctions unilatérales américaines, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. La mission iranienne à l'ONU qualifie de crimes contre l'humanité les mesures coercitives unilatérales. L'ambassadeur et représentant permanent d'Iran auprès de l'ONU, Majid Tartelavanchi, a appelé la communauté internationale à prendre des mesures immédiates contre les sanctions et de l'unilatéralisme, les qualifiant de symbole de crimes contre l'humanité. S'exprimant lors d'une réunion virtuelle du Conseil de sécurité de l'ONU, le représentant permanent de l'Iran auprès de l'ONU a mis en garde contre les conséquences désastreuses des sanctions, affirmant qu'elles pourraient entraîner une crise humanitaire. L'ambassadeur iranien a qualifié les sanctions de terrorisme économique ainsi que de punition collective d'un peuple. Majid Tartelavanchi a soulevé la question lors d'une réunion du Conseil de sécurité ayant pour thème l'action unilatérale doit prendre fin maintenant. Il a noté que l'Iran faisait face aux sanctions les plus paralysantes qu'un pays ait jamais subi. Il a ajouté que les mesures coercitives et unilatérales, y compris les sanctions, perturbent l'économie, l'accès au système financier et aux réserves de change, et même la nourriture et les médicaments. Bien que certains pays occidentaux affirment que les médicaments, la nourriture et d'autres articles humanitaires sont exemptés de sanctions dites intelligentes, ces sanctions font le plus de mal aux innocents et aux groupes vulnérables de la société en cette période de la pandémie de COVID-19, a-t-il souligné. Les sanctions visent les enfants, les malades, les personnes âgées et les pauvres, avec des conséquences humanitaires désastreuses et qui pourraient se transformer en crise humanitaire et encore déplorée. Le représentant permanent de l'Iran auprès de l'ONU faisant référence à un rapport du rapporteur spécial des Nations Unies sur l'impact négatif des sanctions sur les droits de l'homme. Il a également évoqué les effets négatifs des sanctions contre la lutte anti-Covid, ajoutant « Il est très dangereux d'imposer des sanctions dans le contexte de la pandémie du coronavirus, car si un pays n'est pas sûr, d'autres pays ne le seront pas et le virus se propage et de nombreuses personnes risquent d'être conduites à la mort. » Au cours de la réunion, la Russie a également qualifié d'illégales les sanctions unilatérales des États-Unis et de l'Union européenne, ajoutant qu'elles menaçaient gravement la paix et la sécurité internationale.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir en fait sur ce qui se passe actuellement entre la résistance yéménite et le régime saoudien. La résistance yéménite qui a en fait frappé, c'était lundi, une autre fois, les installations pétrolières saoudiennes d'Aramco à Jeddah, en fait, une frappe qui était d'une importance primordiale. Et cette attaque contre des installations pétrolières saoudiennes à Aramco est intervenue à un moment où le porte-parole des forces armées yéménites avait en fait lancé une sévère mise en garde au régime de saoudien, en fait, l'appelant à cesser ses agressions contre le peuple yéménite, ses agressions contre les installations vitales du Yémen. En fait, mais ces appels lancés du côté de la résistance yéménite sont en fait restés, si vous voulez, indifférents. du côté du régime agresseur. C'est pourquoi cette nouvelle attaque contre l'installation pétrolière d'Aramco. Et dans ce contexte, les Israéliens également sont inquiets. On va y revenir dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui. Mais j'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission deux invités spécialistes des questions internationales. J'ai avec moi pour cette émission depuis Paris, M. Habib Tawa, analyste politique et spécialiste des questions internationales. M. Tawa, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bon, notre contact avec Paris n'a pas été encore établi. Mes amis à la régie sont en train de rétablir ce contact. En attendant, on va en fait partir tout de suite, en fait pour Paris, pour rejoindre l'analyste franco-syrienne, Madame Aïssa Midani. Madame Midani, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et merci de l'invitation. Bonjour à l'ensemble de l'équipe Presse TV et à tous les auditeurs et les téléspectateurs.
Merci infiniment, madame, d'avoir accepté notre invitation. Première question, madame Midani. Je viens de lancer le sujet. Il y a eu en fait cette nouvelle frappe du côté de la résistance yéménite contre le régime agresseur en profondeur, une autre fois, si vous voulez, du territoire saoudien et plus précisément contre l'importante installation pétrolière d'Aramco. Quelle analyse portez-vous sur cette frappe du côté du Yémen contre l'Arabie saoudite, s'il vous plaît?
Alors, c'est une attaque qui a beaucoup de profondeur, aussi bien sur le plan de l'action militaire que sur le plan de l'action symbolique et politique. D'abord, le missile par lequel cette attaque a été faite contre cette base qui s'appelle NIOM, en fait, des installations pétrolières d'Aramco à Jeddah. Il s'appelle Al-Quds II, donc c'est Jérusalem. Et puis, c'est très symbolique, juste au moment où le prince Mohammed bin Salman recevait Netanyahou et Pompeo et le responsable du Mossad, Yossi Cohen. Donc, c'est aussi un autre sens, une autre dimension très importante de protestation à la fois contre ces alliances qui s'opèrent en ce moment avec Israël contre le peuple palestinien, un soutien indéfectible au peuple palestinien et surtout un soutien au fait que Jérusalem est et restera arabe. En fait, en même temps, le responsable yéménite déclare que ce missile était prévu pour aller frapper Eilat et aller frapper le cœur d'Israël. Et malheureusement, les événements d'aujourd'hui font qu'il tombe et ils l'ont envoyé sur l'État ou sur le régime saoudien qui non seulement agresse le Yémen depuis 2015 en faisant des bombardements systématiques contre l'ensemble des structures et contre le peuple déjà, contre les civils, contre l'ensemble des structures humaines et humanitaires, je peux dire, c'est-à-dire les hôpitaux, les écoles, les salles de noces, les salles des condoléances, l'ensemble. Donc, c'est visant la population civile systématiquement et systématiquement visant aussi à faire un maximum de nombre de morts. Aussi, en plus de l'embargo, en fait, ou de l'encerclement systématique aussi des ports et des aéroports yéménites, au jour d'aujourd'hui, donc après 5 ans et demi de cette agression horrible qui est menée par les Saoudiens, les Émiratis et ce qu'on appelle l'association ou les alliés des Saoudiens. Il est clair qu'aujourd'hui, l'ensemble de ces pays qui agressent le Yémen sont des alliés d'Israël. Et en fait, ils menaient cette agression du Yémen pour le compte d'Israël, pour différentes choses. D'abord parce que le Yémen a toujours résolument et indéfectiblement soutenu la lutte du peuple palestinien, d'une part. Et puis d'autre part, parce que aussi c'est un peuple qui veut vivre debout et qui refuse toutes les tutelles, notamment les tutelles saoudiennes. Et troisièmement aussi parce que le Yémen se trouve sur une position géostratégique importante, qui est la position à l'angle de la mer Rouge et de la mer indienne, donc aux portes de l'Afrique d'un côté et aux portes de la mer Rouge de l'autre côté, et aussi donc et puis les Israéliens font tout ça pour le profit des Israéliens qui veulent dominer les voies de passage, les voies maritimes de passage à la fois du pétrole et de toutes les denrées.
Madame,
c'est important.
Pardon. Madame Mehmedani, excusez-moi de vous couper la parole. Vous l'avez en fait dit depuis 2015, cette coalition d'agression dirigée par l'Arabie saoudite mène en fait cette guerre sans merci contre le peuple yéménite, contre les installations vitales de ce pays. Mais l'ironie de l'histoire, Madame Mehmedani, le régime saoudien qui avait promis de conquérir Sanaa dans deux semaines, lorsqu'il y a eu cette agression contre le Yémen en 2015, a écrit, suite à cette récente frappe de la résistance yéménite contre Aramco, une lettre au Conseil de sécurité de l'ONU, l'appelant à mettre un terme aux frappes, si vous voulez, saoudiennes contre ces installations pétrolières, Madame Mehmedani.
Effectivement, c'est l'ironie du sort, c'est eux qui sont les agresseurs. Et ils crient aux agresseurs, à l'agressé. Il est clair que aussi depuis, il est important quand même de signaler que depuis 5 ans et demi, ni les structures de l'ONU ni le Conseil de sécurité n'ont évoqué dans le moindre rapport toutes ces exactions qui sont menées par la coalition dirigée par les États-Unis et par les États-Unis aussi. En fait, par l'Arabie saoudite, je dirais, pour le compte des États-Unis et Israël, ils n'ont jamais fait la moindre remarque aux Saoudiens d'un côté. De l'autre côté, je tiens quand même à rappeler que lorsque l'Arabie saoudite était listée sur la liste noire pour avoir tué un nombre important d'enfants au Yémen, elle a été enlevée de cette liste noire par le secrétaire des Nations Unies, étant donné que l'Arabie saoudite a joué au chantage à l'argent d'un côté, et puis aussi sans doute sur la pression des Américains. Je voudrais dire quand même que malheureusement l'ONU était devenue de plus en plus le défenseur ou la plateforme de défense des positions américaines dans la région. C'était le cas pour la guerre d'agression menée contre la Syrie aussi depuis 2011, et dans laquelle d'ailleurs l'Arabie saoudite a joué un rôle absolument important dans l'agression, puisqu'elle soutient toujours les terroristes. C'était aussi une plateforme d'agression, de financement du terrorisme et de soutien par les moyens militaires, par des munitions, par des armements, etc. de l'ensemble des organisations, d'un ensemble d'organisations terroristes en Syrie. D'ailleurs, ça a été aussi divulgué dans les médias lorsqu'il y a eu la divergence, je dirais, entre Qatar et l'Arabie saoudite. Ça a été dit sur tous les médias et crié sur tous les médias par Hamad bin Jassim, qui était le ministre des Affaires étrangères du Qatar, et puis qui a vraiment divulgué et parlé de toute cette ce complot contre la Syrie, et dans lequel étaient associés d'ailleurs, et ils sont toujours, et ils étaient associés Qatar et l'Arabie saoudite, et maintenant donc il y a des différends entre eux. Qatar continue à collaborer et à coopérer avec la Turquie, tout ceci pour le plaisir des États-Unis et d'Israël, pour le plaisir et pour la protection de cette entité d'agression et d'occupation israélienne que tous s'évertuent à protéger et à faire durer, alors qu'elle est naturellement, je dirais, en voie de disparition, parce que jamais elle ne pourra être intégrée dans la région.
Madame Midani, s'agissant du régime israélien, je viens de le dire tout à l'heure, en fait, cette nouvelle attaque de la résistance yéménite contre Aramco semble inquiéter des Israéliens, au moins les milieux médiatiques des Israéliens. Et de ces milieux se sont arrêtés, Madame Midani, surtout sur les déclarations du membre du bureau politique d'Ansar Allah, Abdul Wahab al-Mahbashi, qui avait en fait précisé, après le tir, si vous voulez, de ce missile Qods 2, que voilà, ce missile est conçu. Là, je cite, si vous voulez, ce responsable du bureau politique d'Ansar Allah, avait dit que voilà, de ce missile est conçu pour frapper Eilat, Madame Midani. Exactement. Eilat, c'est le port israélien sur, en fait, la mer Rouge, un port qui est d'une importance, en fait, primordiale, qui avait été construit en 1995, Madame Midani. En fait, les Israéliens aussi ont pris, semble-t-il, très au sérieux ces déclarations de ce responsable du mouvement d'Ansar Allah, Madame Midani.
Tout à fait, en fait, bien sûr, parce qu'il il a ajouté aussi que il était prévu pour aller à Eilat et plus loin même, dans la profondeur de la Palestine occupée. Effectivement, ils ont pris ça tout à fait au sérieux, d'un côté. De l'autre côté, je voudrais quand même rappeler qu'ils prennent toujours au sérieux les déclarations du Front de la Résistance, hein, sur les frontières nord de la Palestine occupée avec le Liban. Et ils tiennent aussi depuis un certain nombre de mois et de temps sur un pied et demi, comme on disait, sur une face à Nasrallah, et en attendant toujours la réponse de Hezbollah. Du côté de la Syrie aussi, ils ont toujours beaucoup de peur de la Syrie, d'où leur participation quand même, et leur soutien aussi à Jabhat al-Nusra et à tous les terroristes qui sont en Syrie. Je voudrais quand même signaler que dans la semaine qui vient de se passer, il y a eu deux agressions contre Damas, des agressions israéliennes, à partir du Golan occupé et contre Damas, l'aéroport et la montagne Al-Mani' dans le sud de Damas. Là aussi, en fait, tout ceci montre non seulement les inquiétudes, mais vraiment la peur de cet État fantoche israélien. Je voudrais aussi quand même rappeler aussi que Netanyahou, quand il est allé en Arabie Saoudite, là, à Jeddah, à Neyoum, exactement, la ville de Neyoum, à côté de Jeddah. Et là, c'était normalement un accord secret, une rencontre secrète, mais qui a été divulguée par Israël Hayom, qui est une revue israélienne, en fait, qui appartient justement à Netanyahou. L'objectif, c'était aussi pour montrer que l'Arabie saoudite, qui a été à la tête et qui a œuvré pour que Bahreïn et les Émirats arabes unis puissent faire face à ces accords avec l'État d'occupation israélien, que c'était l'Arabie saoudite, sous la pression de l'Arabie saoudite, et qu'il y a eu déjà plusieurs rencontres avant cette rencontre avec Netanyahou, entre Mohamed Ben Salman et Netanyahou. C'est quand même très important de voir que tous les deux, ils ont été... Netanyahou a été dénoncé par ses compères israéliens qui s'étonnaient qu'il n'ait même pas pris les précautions de les informer, mais donc que ça a été dans le secret total, et que le Mohamed Ben Salman était aussi là, sans, il avait même approuvé quand même, apparemment, d'après ce que dit le journal, la publication et le fait de divulguer cette rencontre. Et en fait, ceci pour montrer que, de toute façon, pour aller dans le sens de la... moi, je dirais pas normalisation, mais dans le sens des alliances avec Israël, mais ce sont des alliances actives, aussi bien au niveau des renseignements qu'au niveau des échanges d'informations et au niveau de la présence, en fait. Je pense que dans le monde musulman, on est en droit de s'insurger contre cette utilisation, je dirais, du ciel et des lieux saints pour accueillir un pouvoir d'agression contre tous les musulmans et contre les peuples musulmans et chrétiens, d'ailleurs, de la région, puisque Jérusalem est une capitale sainte pour les deux religions, mais aussi il y a la Mecque et le pèlerinage, et il y a Al-Médina, qui sont vraiment des villes saintes importantes pour l'ensemble des musulmans.
Madame Midanid, malheureusement, notre contact avec M. de Tava n'a pas été établi. On va poursuivre avec vous et notre débat. C'est quand même un très, très bon débat, Madame Midanid, grâce à vous et grâce à vos analyses et commentaires. Madame Midanid, vous l'avez en fait dit, il y a eu cette rencontre secrète entre Benjamin Netanyahu, Ben Salman et le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, si vous voulez, à un moment où il y a eu cette attaque de la résistance yéménite contre l'installation pétrolière, en fait, d'Aramco. Et j'étais en train de fouiller les articles de la presse avant de venir, en fait, présenter cette émission. Je suis tombé, Madame Midani, sur ce tweet d'Abdelbari Atvan, le rédacteur en chef de Rayal Yaoum, en s'adressant, si vous voulez, à certains régimes arabes. Il avait dit que voilà, Israël ne peut pas, en fait, de se protéger. Comment sera-t-il vous protéger, Madame Midani?
Exactement. Exactement, puisque Israël vit une peur quotidienne, effectivement, de l'ensemble de la résistance libanaise, déjà, et de Hezbollah, mais aussi, ils prétendent, en fait, ces pays prétendent que leur alliance avec Israël va les protéger de la prétendue agression iranienne. Alors, comment Israël va pouvoir les protéger si elle ne se protège pas, ça d'un côté, mais d'un autre côté, c'est aussi créer un ennemi fictif, en fait, puisqu'il n'arrête pas de dire que l'Iran va les agresser ou ils ont peur de l'agression de l'Iran, alors qu'ils sont en train de tendre la main à l'ennemi réel de tous les peuples arabes et de tous les peuples musulmans, en fait, qui est l'État sioniste. En fait, cet État pendant la signature ou pendant leur visite aux Émirats arabes unis, en même temps, ils exhortent les États-Unis de ne jamais donner les vraies armes aux Émirats arabes unis, jamais de F-35, jamais de F-25, mais il faut qu'elles soient pour assurer la suprématie militaire d'Israël dans la région, et il faut qu'il y ait quand même un rapport de force qui penche plus du côté d'Israël.
Merci
Donc
beaucoup.
En fait, non seulement ils passent des accords et des alliances avec ces États. En fait, moi, je voudrais dire qu'ils ne sont pas des États, ce sont vraiment des gens qui sont mis au pouvoir par les Américains, par les Britanniques, qui sont complètement coupés de leur peuple, parce que le peuple bahreïni s'oppose réellement à ces alliances avec Israël, le peuple émirati aussi. Et des sondages montrent aussi qu'en Arabie saoudite, la plupart de la population, nombre important, à 90%, ils sont complètement opposés à ces alliances.
Merci beaucoup.
Ces normalisations, entre guillemets, des rapports avec Israël.
Madame Aïssa Arbidani, analyste franco-syrienne, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Paris. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt.
Parole d'experts.
Les deux chambres du Parlement allemand ont adopté mercredi une réforme qui inscrit dans la loi nationale une batterie de mesures pour lutter contre la propagation du Covid-19. Une partie de l'opposition dénonce l'emprise de l'exécutif sur les libertés fondamentales. Comment peut-on analyser cette nouvelle mesure des autorités allemandes ? Pierre Dortigui est politologue français, nous répond.
L'exécutif allemand là est une, disons, n'est pas une surprise pour nous, car ni même pour certainement une grande partie de l'opinion allemande qui lui est opposée, je dois dire, parce que il y a eu en Allemagne une très grande réaction aux mesures, disons, prises sous prétexte de mesures sanitaires. Vous savez, le peuple allemand n'a pas le même caractère que le peuple français. Si on peut comparer ces deux nations, le peuple français, disons, est plus loquace, disons, il s'exprime peut-être davantage, mais en définitive, est assez soumis aux autorités. Tandis qu'il y a un individualisme, une certaine, en Allemagne, je ne dis pas un individualisme, un manque de sens social, bien au contraire, mais il y a une sorte de liberté d'opinion qui est cultivée aussi par le protestantisme, qui est cultivée par... Pour toute une culture, vous savez, c'est quand même le pays de la grande philosophie. Et depuis des mois, des manifestations en Allemagne sont très fortes. souvent, si je puis dire, à visage découvert, pour lutter contre ce qu'ils appellent une tyrannie dissimulée derrière des mesures médicales. Et ceci est très important dans la partie surtout est de l'ancienne partie qu'on appelle Est, c'est-à-dire l'ancienne partie d'occupation soviétique où les Allemands ont été soumis vraiment, vous savez, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, à une véritable tyrannie. Disons, moi-même j'ai vécu en camp de travail, je me rappelle, en 1960, j'ai accompagné des camarades de mon lycée de préparation à Henri IV à Paris, et nous avons pu nous rendre compte, effectivement, de par la réaction même des jeunes gens que nous rencontrions, qu'ils avaient affaire véritablement à une emprise d'État. Et de ce point de vue, toutes ces régions de l'Est ont manifesté, comme à Berlin, comme vous avez pu voir, il y a de cela quelques mois déjà, où un nombre très important, je dois dire que ce nombre a dépassé le million, on a dit un million, près de 2 millions de personnes sont sorties, vous voyez, manifester. C'était la même chose à Leipzig, c'était la même chose également dans la partie, disons, plus occidentale de l'Allemagne. Et je dois dire que la réaction du gouvernement est une réaction peut-être d'obéissance à ce que nous appelons une politique globaliste, voyez-vous. Une politique qui n'a rien à voir avec la santé, mais avec ce que nous appelons ici le RESET, R-E-S-E-T, c'est-à-dire un ensemble de mesures qui, sous prétexte de santé, réglerait davantage la société, appauvrirait celle-ci, voyez, et diminuerait la propriété. Disons, ferait que l'État deviendrait beaucoup plus totalitaire, si je puis dire, qu'il ne l'est jusqu'à présent. Ce seraient des mesures dirigées, effectivement, contre la moyenne bourgeoisie. Surtout, voyez-vous, je me permets, sans tenir un long discours, que cette lutte contre la moyenne bourgeoisie est l'objectif commun et du marxisme, vous savez, des partis communistes, d'une part, et en même temps des grands groupes industriels, ceux qui se réunissent chaque année au Bilderberg ou autre, voyez-vous, qui décident de la politique mondiale. Et je dois dire que, de ce point de vue, la réaction du gouvernement allemand ne semble pas être forcément une réaction proprement indépendante, mais une réaction de soumission, justement, à ces groupes-là. N'oublions pas, en conclusion, que le gouvernement allemand, l'Allemagne elle-même, nous la définissons aimablement, vous savez, comme un géant économique et un nain politique. Et je dois dire que là-dessus, il y a une certaine servilité du gouvernement allemand. C'est la conséquence de la guerre, de sa défaite militaire, on peut dire, des deux défaites militaires dans le siècle. Ce n'est pas simplement de 39-45, mais également de 14-18, jusqu'en 19, disons. Et je dois dire que c'est avec... nous tirons deux conclusions, disons, de cet événement dont vous parlez, à savoir qu'il y a véritablement, bien sûr, un essai de reprise en main par l'exécutif de l'opinion publique allemande, mais en même temps, certainement, en Europe, cette opinion publique s'est manifestée, s'est mobilisée d'une manière qui a certainement même étonné les Européens, voyez-vous, et empêche peut-être la réalisation de plans qui, sous couvert, je le dis, de la santé, ce n'est pas causé par la santé, mais sous couvert de la santé, voyez-vous, peuvent, disons, conduire à des prises en main totalitaires, voilà.
La fin de l'Amérique est-elle proche? Les élections présidentielles aux États-Unis nous ont montré un certain nombre de particularités qui ne se limitent pas aux seules structures de la société américaine, mais qui auront évidemment un impact sur les processus mondiaux. We'll be right back. La première chose à laquelle nous devons prêter attention est que le facteur de la géopolitique pure est apparu lors des élections américaines. Il y a déjà eu une telle situation, bien sûr, mais elle n'a jamais été aussi flagrante et sans ambiguïté. Je parle de géopolitique dans le sens où, par exemple, en Ukraine, avant l'Euromaïdan, les régions du sud-est de ce pays ont voté pour un candidat et les régions occidentales ont voté pour un autre. Par conséquent, tout le territoire de ce pays pourrait être coloré de deux couleurs. Pendant longtemps, il a semblé que la confrontation entre les démocrates et les républicains ne changeait rien aux États-Unis, car il y avait un consensus politique sur les problèmes clés de la politique intérieure et aussi étrangère de ce pays. Et avant l'arrivée de Trump, c'était vrai à bien des égards. Mais Trump a divisé l'Amérique sur le plan politique, et maintenant le choix entre les démocrates et les républicains est très différent de ce qu'il était auparavant. L'Amérique a maintenant acquis un vecteur géopolitique clair, la couleur rouge, la couleur traditionnelle des républicains, le parti de l'éléphant, les États centraux des États-Unis, l'American Heartland. Et la couleur bleue des démocrates, le parti de l'âne, est peinte dans les zones côtières de l'Atlantique et du Pacifique, où sont concentrés les centres de haute technologie et les centres financiers. On voit donc deux Amériques qui s'affrontent. Une Amérique est la vieille Amérique conservatrice, un État-nation qui ne lie pas son destin à la domination mondiale et à la propagation de la démocratie dans le monde. Et la deuxième Amérique qui est précisément liée au mondialisme mondial, prétend en être le centre et le noyau. Trump représente la première Amérique, Biden représente la seconde. Et leur confrontation la plus féroce est un moment fondamentalement nouveau dans la vie politique américaine. Désormais, il n'est plus possible de penser cette division, parce que ce sont deux visions du monde, deux territoires, deux images de l'avenir déjà incompatibles pour les États-Unis et le monde. L'élection présidentielle actuelle, qui est extrêmement falsifiée, est un échec. C'est la mort du système politique américain. C'est une « failed democracy », c'est-à-dire une démocratie défaillante. À l'avenir, il se peut que les mondialistes abandonnent l'Amérique, qu'ils sacrifient l'Amérique pour répartir ses fonctions entre les élites mondiales. Sinon, ils n'auraient probablement pas délibérément attisé ce conflit en divisant les États-Unis en deux parties belligérantes. Et pour une nouvelle guerre civile, il y a déjà toutes les conditions préalables. Et bien sûr, cela commencera tôt ou tard. Il est donc possible que sous Biden, les autorités de Washington soient prêtes à entamer une guerre contre la Russie. Après avoir vaincu leur pays d'origine, leur Heartland, elles commenceront à attaquer le Heartland au niveau mondial, c'est-à-dire la Russie, envers laquelle les démocrates ont une haine énorme. La Chine et l'Iran pourraient eux aussi figurer sur la liste. Le monde deviendra alors encore plus fragile et imprévisible. Avec Biden comme représentant de l'Heartland américain, il est impossible de construire un monde multipolaire dont les États-Unis resteraient l'un des pôles. Biden s'accrochera avec ses dents à l'unipolarité, à la mondialisation et à l'atlantisme. La fin de l'Amérique est toute proche.